à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Désolé pour ce retard d'allumage. J'ajoutais un article de dernière minute et j'ai pas touché au timer. Je mets mon casque. Je suis un peu à la bourre. Aujourd'hui, on va parler des premiers retours sur le Vision Pro, les premières vidéos des journalistes et des youtubeurs sur le Vision Pro. On va parler bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 1er février 2023 et on démarre tout de suite. J'ai dit 2023, c'était bien sûr un piège pour voir si vous suiviez. Nous sommes bien sûr en 2024. Je ne suis pas... Je suis très bien réveillé. Tout va bien. C'est une rediffusion en live. Voilà. Désolé pour ce retard. Nous, on avait un an de retard en InfoWeb. Aucun problème. Aucun problème. Oui, bon, ça arrive. Ça va, je ne me suis pas trompé de moi déjà. C'est pas mal, c'est pas mal, il y a du progrès. Bon, comment allez-vous bien ce matin? Hein? Est-ce que vous avez la forme? Mes lights ont un peu changé, bon, ça ira. Bah oui, parce qu'on a fait un tournage hier, non, ça ira pas, ça va me trigger, bougez pas. Hop, ça c'est mieux. Ça, c'est mieux. Par contre, derrière, ça ne va pas. Je reviens. Ah, voilà. Je me disais. Hop. Voilà. Bah voilà, c'est quand même mieux. Hein, on va le dire. Ce live est un live professionnel. Le décor n'est pas un fond vert. Vous avez une preuve, ou alors c'est très très bien fait. Ça a très très bien fait. C'est très très bien fait. Ça va, t'as fait tes petites affaires, on peut y aller. Je vous dérange. Excusez-moi hein, de vouloir voir, à essayer d'avoir une belle lumière. Je fais des efforts. Est-ce que vous, vous êtes correctement habillé pour regarder le mug? Est-ce que vous avez soigné votre présentation? Ou est-ce que vous êtes dans votre vieux slip, là? Je vous vois, hein? Je vous vois, je vous vois. Faut pas croire. J'écoute en audio. Bonne excuse. Bonne excuse, bonne excuse. De quoi on va parler ce matin? Il n'est pas vieux, il a à peine 3 jours. Bah, tant que tu le retournes, ça va, hein? Ça peut durer 4 jours, hein? Devant, derrière, tu retournes devant, derrière. Hop. Slip en cuir et ouverture. Genre, en fait, je veux pas savoir. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je veux pas savoir. Voilà. Je ne vois rien. Je ne vous vois pas. Pas de vieux slip, je suis au bureau. Rien ne t'empêche, hein, dans l'absolu. C'est pas un motif de licenciement. L'odeur, si, peut-être, quand même. Je suis dans le bus et du coup, je suis présentable. Bon, bah, au moins un, ça va. Allez, de quoi on va parler ce matin? Parce que j'ai rajouté en plus un article. Donc, bah, vous le savez, hein, je vais avoir du mal à finir. On va regarder ensemble le sommaire. On va parler effectivement des réseaux sociaux, les patrons des réseaux sociaux qui sont auditionnés au Sénat, un moment pénible pour Mark Zuckerberg. Ça s'est passé cette nuit pour nous. Ça sera un article de RFI. Nous parlerons ensuite des nombreuses chansons cultes qui vont bientôt disparaître de TikTok. Nous parlerons également d'iOS 18 qui pourrait être la mise à jour la plus importante dans l'histoire d'Apple. C'est un article de Frandroid. L'article précédent, j'ai oublié de le citer, c'est un article de Clubic.com. Nous aurons ensuite un... Pourquoi Flipboard ne montre plus les sources ? Ça sera WeBids. Un humain a reçu pour la première fois l'implant Neuralink d'Elon Musk. Nous parlerons aussi de cette histoire de Galaxy AI qui serait payant dans 2 ans. Samsung précise ses plans pour les smartphones Galaxy. Ça avait fait couler pas mal d'encre. Attends, je baisse le son du casque qui est un peu fort. Nous parlerons également de l'affaire Taylor Swift avec Phone Android qui pourrait mettre fin à l'un des pires fléaux d'Internet, hein, les deepfakes, les nude deepfakes de Taylor Swift qui ont engendré pas mal de remous. On parle beaucoup de Taylor Swift en ce moment, pas que d'ailleurs sur ce sujet. Et nous terminerons effectivement en parlant avec vous. Moi, j'ai vu pas toutes les vidéos, mais j'en ai vu pas mal. Les premiers unboxings, les premiers avis des journalistes qui ont reçu le Vision Pro depuis plus d'une semaine maintenant, ont eu le droit de sortir leurs vidéos il y a 1 ou 2 jours. Sachant que demain, ceux qui ont précommandé et qui, dans les 15 premières minutes, ont réussi à en avoir un, recevront leur Vision Pro. On peut le dire, les résultats sont en demi-teinte. Il y a des choses très intéressantes, des analyses assez intéressantes. Je vous dirai d'ailleurs quelle est ma vidéo préférée dans ce que j'ai vu hier. Et ça risque de vous surprendre. Et ce n'est pas I, Justin. Respect quand même pour elle. Voilà en tout cas pour les articles du jour. J'espère que ça vous va. J'en ai pas d'autres. Et on va commencer effectivement tout de suite par ce qui s'est passé au Sénat aux États-Unis. Effectivement, le Sénat américain a décidé de convoquer les grands patrons des réseaux sociaux un peu pour les passer au grill. Alors, j'ai du mal à ouvrir cet article. Voilà, je vais ouvrir l'article de RFI. J'ai un peu lu ce matin, mais je n'ai pas eu le temps de surligner. Désolé, c'est un peu le zbeul. Effectivement, un article de RFI. Le Congrès américain a vécu un moment marquant ce 31 janvier. Les patrons des principaux réseaux sociaux étaient entendus par une commission sénatoriale sur les conséquences parfois dramatiques pour les jeunes des contenus publiés sur leur plateforme. Et ça s'est pas très bien passé pour le plus connu d'entre eux, mince. Mark Zuckerberg, que vous connaissez bien. Effectivement, il s'est vraiment fait... on va dire que voilà, les sénateurs avaient prévu quand même de le mettre en face de certaines réalités. Et il y a eu des phrases très dures. Du type, Monsieur Zuckerberg, vous et les entreprises devant nous, je sais bien que ce n'est pas votre intention au départ, pensiez pas à mal, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit qui tue les gens. Et du coup, Mark Zuckerberg, presque les larmes aux yeux, hein, ça a été assez difficile, effectivement, pour lui, s'est excusé. Il a dit « Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé ». Il s'est adressé aux familles, donc des familles qui ont parfois perdu un enfant, souvent des suicides effectivement face à la pression des réseaux sociaux. « Je suis désolé pour ce que vous avez traversé, pour les épreuves qu'ont subi vos familles. Et c'est pour ça que nous investissons autant, nous allons continuer nos efforts les plus importants du secteur pour nous assurer que personne n'ait à traverser les mêmes souffrances que vos familles. » Donc, bon, peut-être un peu tard pour présenter des excuses, mais mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. En tout cas, effectivement, c'est des choses importantes qui se passent maintenant. Alors, j'enfonce des portes ouvertes et c'est des choses qu'on a souvent dit, mais effectivement, on est passé d'un enchantement candide et naïf des années 2010 autour des réseaux sociaux nous connectons le monde, c'est formidable, etc. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans une société qui paye le prix de cette utilisation. Pour moi, la responsabilité, elle est toujours collective, mais ça n'empêche que c'est pas vous, c'est pas moi qui avons lancé Facebook. Et comme le dit le Sénat, c'était pas l'intention de départ de Mark Zuckerberg. Il n'a pas créé un réseau pour que ça se passe mal. Mais c'est important que ces mecs-là, justement, aient à faire face aux responsabilités des problèmes sociétaux qu'engendrent aujourd'hui les réseaux sociaux. Que ce soit effectivement les fake news, les problèmes par rapport aux démocraties, les problèmes par rapport au bien-être intérieur, la pression sociale que ça induit, les addictions. Voilà, tout le côté, j'allais dire dark web, ce qui veut dire autre chose, mais tout le côté effectivement dark des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas que des cœurs et des thumbs up, c'est aussi un porte-voix pour tout ce qui est négatif. Alors, faut pas qu'on oublie aussi que c'est un porte-voix pour tout ce qui est positif. Moi, vous connaissez ma position là-dessus. Je n'aime pas hurler avec la meute. Et vous connaissez un de mes dictons préférés, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qui est un dicton absolument horrible. Je continue à le dire, malgré la toxicité, les problèmes d'addiction, les problèmes sociétaux qu'engendrent les réseaux sociaux, je continue à penser que par certains aspects, les réseaux sociaux sont un progrès de l'humanité. Voilà. Toute technologie est à double tranchant. Toute technologie, surtout quand elle est commercialisée et qu'elle permet à certaines personnes de s'enrichir, même juste déjà de créer un business, on doit faire face à ses responsabilités, hein, dans ces cas-là. Aujourd'hui, effectivement, l'argent gagné, et là, maintenant, Mark Zuckerberg le dit, on veut voir les résultats, mais une partie de l'argent gagné doit être réinvesti pour la sécurisation. On ne peut pas faire effectivement des réseaux sociaux à 100% safe, mais aujourd'hui, la priorité des réseaux sociaux, et on en a parlé beaucoup avec Twitter X, Elon Musk, notre sécurité, la sécurité des enfants, l'encadrement, la modération, une grande partie de l'argent devrait être réinvesti là-dedans. C'est comme la fusée qui devient une bombe. Oui, toute technologie est à double tranchant. On va pas refaire le traditionnel comparaison avec le feu, mais c'est ça. Le feu et enfin la domestication du feu, pour moi, c'est la première technologie, la domestication du feu. Le feu a beaucoup amené à l'humanité, mais vous pouvez cramer votre hutte avec. On va pas la refaire, hein, d'ici. Bah si, on va la refaire, mais en vrai, il n'y a pas plus clair que l'analogie du feu. Le feu, c'est la mère de toutes les technologies et c'est la merde de toutes les technologies. On peut trouver toutes les analogies en tech. Finalement, l'analogie du feu est la meilleure. Donc, moi, alors, je suis un peu une voix dans le désert, mais je vois encore énormément d'aspects positifs aux réseaux sociaux. Bien sûr, c'est très facile de caricaturer les réseaux sociaux par leur côté addictif, inutile. Oh, il partage son café, son burger, on n'en a rien à foutre. Ça a créé des influenteurs. Oh là là, où va notre société? Autrefois, nous, on s'amusait avec deux bouts de bois. On n'avait pas ces addictions-là, c'était mieux avant. Bon, voilà, je voulais faire un peu la caricature. Oui, c'est facile de caricaturer négativement les réseaux sociaux. Au même titre que ma génération. Moi, je le dis aux plus jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Quand vous entendez quelqu'un vous dire que vous êtes une génération perdue à cause des réseaux sociaux et que c'était mieux avant, Dites-vous que, par exemple, ma génération était une génération perdue parce qu'on passait trop de temps devant la télévision. OK ? La génération des boomers était une génération perdue parce qu'ils écoutaient trop de rock'n'roll. La génération avant les boomers, je sais plus comment elle s'appelle, mais enfin la génération qui a fait la guerre, était une génération perdue. Bon, en faisant la guerre, ils ont eu quelques... Voilà. Une génération qui a bien souffert, on va peut-être la laisser tranquille, celle-là. Mais voilà, toute génération est la génération perdue de la génération précédente. Et comme, comme je le dis toujours en revenant au feu, il est fort probable qu'à l'époque où il y a eu la domestication du feu, un vieux grincheux a dit à un jeune, moi, à mon époque, on n'avait pas besoin du feu, hein, on se débrouillait très bien sans, on mangeait cru, on était bien, bon, on crevait un peu plus tôt, mais génération perdue, là, avec ça devient trop facile. Et regarde-moi cette addiction. Nous, on savait dormir à la dure, hein, sans feu, dans le froid. Hein, et toi, t'es obligé de dormir à côté de ton feu. Addiction. Twitter n'est absolument pas une bonne amélioration pour l'humanité. Je suis pas du tout d'accord, Harry Potter. Twitter a permis à certaines informations... d'avoir une portée mondiale, et je ne parle pas de fake news, de vraies informations, des affaires qui auraient été probablement pas révélées dans le circuit d'information traditionnel des médias avant les réseaux sociaux. Je prends un exemple, le MeToo, que j'estime un véritable progrès social. À mon avis, le MeToo n'aurait pas eu la portée qu'il a avec toutes les conséquences que ça a, mais n'aurait pas eu cette portée sans les réseaux sociaux. Le printemps arabe n'aurait pas existé sans les réseaux sociaux. Le déroulement des conflits actuels n'aurait pas été les mêmes sans les réseaux sociaux. Donc de dire que Twitter n'est absolument pas un progrès pour l'humanité, c'est débattable. Je ne suis pas en train de te dire que tu as tort, tout le monde a le droit d'avoir des avis différents. Mais le gros avantage de Twitter, j'ai envie de parler des réseaux sociaux en général, et ses dangers aussi, c'est que ça donne un porte-voix avec une puissance de grands médias à des voix qui auraient été invisibilisées par le système médiatique qui existait avant. Ces dernières années, les avancées techniques ont été beaucoup plus rapides que le cerveau à main. J'ai entendu exactement la même phrase dans les années 90. Alors, quelque part, c'est vrai. L'invention, par exemple, de l'informatique a accéléré les inventions. L'intelligence artificielle va probablement accélérer les inventions. Mais toute invention accélère les inventions. Donc, cette phrase, je ne suis pas en train de dire que vous avez tort en disant cette phrase, mais cette phrase aussi s'applique à toutes les époques. Les inventions sont exponentielles depuis longtemps et dépassent le cerveau humain depuis longtemps. Et c'est un débat intéressant parce que je l'ai eu récemment d'ailleurs avec un ami. Je disais, mais tu sais, quand le téléphone est arrivé, il y a eu quand même beaucoup de contestations. Ça a détruit des emplois. Pense aux pauvres employés du Télégramme, ce genre de choses. Il me disait, oui, mais à l'époque, les inventions mettaient quand même plus de temps à s'implémenter. On avait le temps de voir les tenants et les aboutissants. La législation avait le temps de s'implanter. Je vais pas faire le nota bene d'Ouich. Je connais pas assez les dossiers. J'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on n'avait pas du tout anticipées avec les inventions. C'est extrêmement dur d'anticiper les risques et les dérives d'une invention. Parce que exactement comme dit le Sénat américain dans cet article, généralement, les inventeurs, les entrepreneurs ne pensent pas à mal. Qui pensait au début d'Internet que des gens mauvais l'utiliseraient comme ça, comme on le voit aujourd'hui. En fait, je pense que l'impression aujourd'hui de ne plus arriver à suivre les technologies, elle est d'autant plus forte dans notre communauté de technophiles que tous les jours, il y a des nouveautés, ça va très très vite et qu'on a du mal à mettre la main sur tout. Mais c'est simplement parce qu'on est technophile, on vient d'une époque où la tech était facile à suivre, relativement simple. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut savoir lâcher prise. Vous ne pourrez pas être au courant de tous les smartphones qui sortent. Vous n'allez pas pouvoir être au courant de tout ce qui se fait. Vous n'allez pas tout maîtriser. Il faut, faut avoir de l'humilité aussi. Quand même, Facebook a fait appel à des neuroscientifiques pour les phénomènes d'addiction. Tu sais, dans l'agroalimentaire, dans les années 30, on mettait des extraits de cocaïne dans la bouffe pour que les gens les achètent plus, hein. Juste pour dire, il y a toujours des dérives, effectivement. Ça ne les rend absolument pas excusables. Mais c'est toujours dangereux de penser qu'on est pire qu'avant. À l'époque, on attendait la rubrique de Bonaldi, on était content, ouais. En gros, il y a un moment, et moi je sais que ça a été difficile pour moi à une époque, surtout étant une chaîne tech, le moment où tu réalises que tu peux pas tout suivre, et que tu peux pas tout faire, et que tu peux pas être au courant de tout. Mais après, ça te rend humble aussi. Je suis persuadé que les bons côtés de Facebook ne compensent pas ces mauvais côtés. Tu as le droit de penser ça, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense d'une manière plus, en prenant du recul, que tout ce qui rend le monde plus petit rend le monde meilleur. C'est une conviction profonde que j'ai. Tout ce qui peut aider les humains à mieux se connaître, à moins avoir peur du voisin, est un progrès pour l'humanité. Mais c'est, après, moi, c'est une conviction personnelle. Je pense que plus le monde deviendra petit, mieux il sera. C'est débattable. Je vous dis, je précise bien, c'est mon avis. Tout le monde a le droit de ne pas penser la même chose. Mais je pense que beaucoup de violence et beaucoup de problèmes dans le monde viennent de la peur. Et que plus tu vois le monde autour de toi et plus tu vois derrière la colline qui est là-bas, au bout du village, moins t'as peur de ce qu'il y a derrière la colline. Mais je suis peut-être un utopiste. mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord du tout. Mais je reprends l'exemple du MeToo, parce que ça aussi, c'est une conversation que j'ai eue avec des neveux et nièces. Pourquoi le MeToo n'a pas été fait avant ? Parce que, un, on se voilait la face, mais deuxièmement, les informations ne sortaient pas. Bref, on pourrait faire toute une émission, mais c'est des débats très intéressants. Mais attention, hein, mon côté utopiste ne m'empêche pas de voir les aspects extrêmement toxiques et extrêmement dangereux des réseaux sociaux. Et c'est très bien que le Sénat des États-Unis, et j'espère que les instances européennes feront de même, de mettre les personnes à l'origine et responsables de ces réseaux sociaux en face de leurs responsabilités. Ouais, enfin, je sais bien que vous continuez le débat. Moi, je viens de l'époque où les news, c'était uniquement la télé, les journaux. Il y a, franchement, il y a eu aussi des mouvements de violence, d'intolérance, d'incompréhension. Et en plus, les canaux émettant les informations étaient bien moindres. Si une information était dissimulée, on n'était jamais au courant, quoi. Donc, j'essaye de me souvenir, c'est un exercice difficile, hein, mais j'essaye de me souvenir des problèmes qu'on avait dans les années 80, 90, 2000, 2010. On en avait aussi. Je me méfie toujours du vernis de la mémoire qui a tendance à faire oublier les problèmes. Voilà. Bref, allez, on passe à l'article suivant, mais c'est super intéressant. Je pourrais pas avoir une communauté un peu plus bête, s'il vous plaît. C'est de votre faute, hein, si on part dans les graviers. Vous êtes passionnant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux rien faire aussi. Le démago à deux balles. On va parler rapidement de TikTok. Et bah justement, dans le genre réseau super utile. Non, en vrai, le TikTok est un bon exemple. Il y a beaucoup de caca sur TikTok. Mais moi, je trouve des perles dans le caca. Je ne vais pas aller plus loin sur cette analogie. Ce dont on va parler, c'est intéressant. C'est le rapport de force, justement, des réseaux sociaux par rapport... en fait, vous détestez TikTok, mais vous détestez aussi le monde des droits d'auteur et les ayants droit et les grandes majors. Et ben là, c'est TikTok versus Universal. Universal a annoncé la fin de sa collaboration avec l'appli TikTok qui va perdre les droits d'utilisation de musique mondialement connue. L'exploitation du catalogue de ces artistes comme Drake, Ariana Grande, Bob Dylan, Elton John, Coldplay, Taylor Swift, décidément ne parle que d'elle, ne sera plus autorisé. Un coup dur pour l'app, mais aussi pour Universal. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu une négociation et TikTok aurait tenté d'intimider Universal. Pour vous donner quand même les rapports de force de 2024, TikTok essaye d'intimider Universal. Voilà. Et là, on est typiquement dans un jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Le premier qui rigole perdra $1 milliard. C'est vraiment ça. Donc TikTok a tenté d'intimider Universal en leur proposant un accord de licence moins rémunérateur que celui précédemment noué. Genre, on va vous filer moins d'argent Universal. Vous êtes OK ? Ce à quoi Universal a dit, c'est une tentative de TikTok de créer une plateforme centrée sur la musique sans en payer la juste valeur. De son côté, ByteDance, la maison mère de TikTok, regrette que Universal Music Group ait fait passer sa propre cupidité avant l'intérêt de ses artistes. TikTok, tu veux vraiment... ByteDance, vous voulez vraiment qu'on parle de cupidité ? Vous êtes sûr de votre coup en sortant l'arme cupidité ? Hein ? Non mais juste là, vous vous prenez pour qui ? Vous faites ça pour la passion ? Oui, nous, ByteDance, on pense d'abord à nos utilisateurs pour qu'ils passent un bon moment en musique. Nous, on fait pas ça pour l'argent. Mm-hmm. Bah, rendez l'argent ! Non, mais j'adore en fait quand un combat entre ByteDance et Universal, c'est succulent. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que cet Universal, sa cupidité, ils ne pensent qu'à l'argent. Hein. Et le bien-être de leurs artistes, alors. Non, mais nous, on pense au bien-être des artistes. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal les arguments. En fait, le fond du dossier, c'est l'intelligence artificielle, encore une fois, la grande fautive, la mère de tous les vices. C'est l'intelligence artificielle qui est venue semer la zizanie dans tout ça. L'application TikTok serait en effet noyée sous des titres générés avec l'intelligence artificielle qui diminuerait les sommes reversées aux artistes et qui encouragerait le remplacement des musiciens et des musiciennes par l'IA, dit Universal. Donc Universal, il dit « Ouais, TikTok, tu me dis que je suis trop cupide et que je protège pas les artistes. Il y a de l'IA plein ton truc et les artistes, ils se font piller. » Ce qui est marrant, c'est qu'on n'entend pas les artistes là, dans le débat. On entend deux personnes qui disent « Nous, on protège les artistes, mais les artistes, c'est... Hey, je pourrais dire que... Tais-toi, je suis en train de te protéger. Hein, c'est pas à toi de parler. » Super. Effectivement, ByteDance s'est en effet récemment lancé dans la grande danse de l'intelligence artificielle avec sa nouvelle app Ripple qui génère de la musique à partir de l'air de musique chantonnée au micro de son téléphone. Et d'une manière relativement convaincante, si vous avez testé Ripple, TikTok pourrait porter préjudice à l'entreprise qui essaye dans le même temps de développer une appli capable de rivaliser avec Spotify, Deezer, Apple Music et consorts. Le truc, c'est que, alors, il y a un truc que j'ai pas lu parce que c'est aussi dans les genres d'arguments qui sont absolument géniaux. TikTok, en disant, Universal, votre discours est trompeur parce que nous, TikTok, on compte plus d'un milliard d'utilisateurs et en fait, ça permet de promouvoir votre musique, notre plateforme. C'est pour ça que vous devriez nous payer moins cher. Alors, juste un truc, parce que ça, c'est un truc récurrent hein, dans le web. Payer la visibilité. Je te paye en visibilité. Il y a plein de gags, plein de mèmes autour de ça. Je te paye en visibilité. Il y a un truc qu'il faut comprendre. La visibilité, ça ne sert à rien si, in fine, ça ne rapporte pas d'argent. Je ne dis pas que la visibilité ne soit pas importante. On paye pour faire des campagnes de pub pour obtenir de la visibilité. Donc la visibilité a une vraie valeur. On ne peut pas caricaturer en disant la visibilité a zéro valeur. Mais à quoi bon être visible si tu ne peux pas monétiser derrière? Et c'est ça le problème. La fameuse visibilité. Donc que TikTok dise « Oui, mais Universal, nous, comme les gens partagent votre musique, bah, ça fait de la pub pour votre musique. » Universal va leur dire « Mais je m'en tape de la pub. » Ça va, les gens, ils connaissent quand même Taylor Swift. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'ils donnent de l'argent pour écouter Taylor Swift. Ça sert à... Et c'est même avec les réseaux, bon, on va pas revenir dans le truc, mais vous le savez, avec les coûts de la bande passante et tout, c'est un des paradoxes d'Internet. Devenir très connu ne sert à rien si les vues ne sont pas monétisées. Et ça peut même être dangereux parce que les vues vont vous coûter de l'argent au bout d'un moment. Chaque vue sur Internet coûte en bande passante, en infrastructure, en salaire des gens pour s'occuper de la diffusion du truc. Donc si derrière, il n'y a pas un business model qui fait que ces vues par la publicité, par un abonnement sont rentabilisées, les vues tuent. Les vues tuent, voilà. C'est un des paradoxes d'Internet, les vues tuent. Ouais, c'est ça le souci de la visibilité. Il faut des yeux soient reliés à un cerveau. Or, sur TikTok. Ah, la caricature de TikTok. La caricature de TikTok. Il y a des non, en vrai, il y a des trucs... C'est parfois dur de trouver. Non, mais en vrai, il y a des trucs super intéressants sur TikTok. Et puis, en termes de divertissement... Moi, il y a des trucs que je trouve absolument géniaux. Il y a des idées incroyables qui émergent de TikTok. Non, alors, Matt Eleven, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Tu dis un truc sur TikTok, on l'oublie au bout de deux minutes, pas les musiques. Et c'est quand même vrai que pour les musiques, aujourd'hui, TikTok fait et défait les succès musicaux comme la radio le faisait dans les années 80-90. Vous savez, autrefois, il fallait que votre titre passe à la radio pour se faire connaître. Aujourd'hui, si votre titre n'est pas repris dans TikTok ou un morceau de votre titre n'est pas repris dans TikTok, c'est beaucoup plus dur. Et il y a des succès qui émergent de TikTok. Vous n'imaginez pas la puissance que TikTok a au niveau de la musique. Donc là-dessus, ils mentent pas en disant quand même la musique, TikTok offre une énorme visibilité à la musique. Si vous savez pas ça, c'est que vous regardez pas TikTok et vous n'êtes pas obligé de regarder TikTok hein, dans la vie pour être heureux, hein, je le précise. Hein. Il n'y a aucune obligation. Ça ne fait pas de vous un être déconnecté ou un vieux con de ne pas vouloir ou de ne pas avoir envie ou vous n'avez pas le temps d'aller sur TikTok. Putain, con. Mais j'aime pas qu'on caricature non plus. Enfin, c'est facile de caricaturer TikTok. Très facile. Et je comprends pourquoi aussi. Hein. TikTok, comme je vous l'ai dit, ah, il faut faire le tri. Hein, parce que, ouais, de la merde inutile, il y en a beaucoup aussi. Mais proportionnellement, là, j'essaye de renouer avec mon moi des années 80-90. Est-ce que j'absorbe plus de merde à l'époque ? Est-ce que j'absorbais plus de merde à l'époque en regardant la télé pour trouver les rares trucs vraiment intéressants et bien à la télé ? Parce que j'en ai absorbé hein, de la merde à la télé. Hein. Ou est-ce que j'en absorbe plus aujourd'hui avec TikTok ? Avec l'avantage en plus de pouvoir l'évacuer assez vite. C'est une bonne question à se poser. Bref, allez, on continue dans les articles. Mais c'est quand même intéressant de voir ces rapports de force. On va parler d'iOS 18, qui pourrait être la mise à jour la plus importante dans l'histoire d'Apple. Effectivement, on en saura plus probablement à la WWDC qui aura lieu en juin 2024. On parle déjà effectivement d'un iOS 18 avec deux changements qui sont très attendus, dont on voit déjà les prémices dans iOS 17. Effectivement, d'abord, l'adaptation aux normes européennes avec l'arrivée des App Store tiers. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y a encore des rebondissements. Apple fait un peu un coup de « Ok, on est Europe compliant, mais on a trouvé un nouveau moyen de vous facturer. » On va en reparler probablement de ces histoires. L'Europe a pour l'instant pas réagi à ce petit coup intéressant, on va dire, d'Apple. On verra, on sait que Microsoft a réagi, que Epic Games a réagi, c'est scandaleux, Apple... Blablabla. Voilà. On verra. Apple, ils aiment pas hein, qu'on touche à leur argent, quand même. Hein. Ils aiment pas du tout. Hein. Pas du tout. Ah, oh, ça va, hein, vous nous avez fait... Hey, l'Europe, on se calme. Hein. Déjà, on a dû abandonner notre prise Lightning. Alors, mollo quand même sur les apps. Hein. Bref, ça, c'est le premier changement, effectivement, qu'on attend. Et il n'y a pas que du mauvais hein, dans l'adaptation d'Apple. Il y a des choses intéressantes, on en a déjà parlé, pour le cloud gaming, etc. Il y a aussi un autre changement, peut-être très important, au niveau de la messagerie, puisque Apple a finalement fini par dire oui au standard RCS après avoir joué les difficiles, et ça depuis quasiment 5 ans. Ce changement va permettre une meilleure communication entre les utilisateurs iOS et Android. En gros, c'est le nouveau standard de messagerie plus universel. Apple ouvre un peu son précaré. Les bulles resteront bleues, hein, ne nous faisons pas d'illusions. Il y aura les bulles bleues et les bulles vertes. Mais les bulles vertes auront plus de possibilités qu'actuellement. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que les bulles bleues et les bulles vertes, c'est que vous n'avez pas un iPhone. Voilà. Donc ça, c'est des changements attendus. Mais le gros changement que tout le monde attend, et moi, pour vous dire, et je peux vous le dire maintenant, je suis en train de tester les Galaxy S24, l'arrivée de l'IA dans les smartphones. Là, Apple a un sérieux retard. Je sais, tout le monde me dit « Oui, mais Apple, ils font comme d'habitude, ils vont attendre 2-3 ans, et puis quand la technologie sera au point, ils sortiront une version bien mieux des technos. » C'est ce que Apple fait avec tout un tas de choses, la recharge sans fil, les smartphones pliants, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à en sortir un. Et ça paye généralement pour Apple d'attendre. Pour moi, l'IA, c'est différent. Je le pense hein, profondément, plus j'utilise l'IA sur un smartphone, plus ça change profondément le rapport au smartphone. Et je le dis devant vous, témoin, vous êtes témoin. Je commence à tellement utiliser l'IA sur mon smartphone que si Apple attend 3 ans avant de mettre de l'IA dans les iPhones, je serais plus que tenté de changer complètement mon écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le dis vraiment très sincèrement, même si je rage parfois devant Windows ou Android parce que je ne connais pas bien et machin, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative m'est tellement utile, que ça soit d'ailleurs dans mon travail que dans ma vie privée, que j'aurais du mal à m'en passer. Voilà, j'ai 645 témoins qui... Alors, attention, je n'ai pas dit « je change, je prends un Galaxy S24 ». Mais il y a des trucs que je trouve dans le Galaxy 24, qu'est-ce que j'aimerais les avoir sur mon iPhone ou mon iPad ? Mais non, mais très clairement. Oui, le Guitounou, une de tes deux touches Windows de ton clavier va être remplacée par une touche Copilot, ouais. Alors, pour l'instant, je tiens, parce que par exemple, moi, j'ai installé Copilot. Si j'appuie sur le bouton action de mon iPhone, bien sûr, ça marche pas, effet Bonaldi. Si j'appuie sur la touche action de mon iPhone, j'ai Copilot qui s'ouvre, moi. Donc, ça compense, mais pour l'instant, Copilot est trop détaché de mon iPhone. Je vous donne un exemple, je peux pas dire à Copilot, est-ce que tu peux me changer un réglage de mon iPhone ? Est-ce que tu peux me générer telle image et me la mettre en fond d'écran ? Copilot, c'est une intelligence de Microsoft, c'est une intelligence artificielle conversationnelle et générative. Est-ce que les utilisateurs non technophiles utilisent l'IA sur leur téléphone ? Je vais te dire un truc, pour l'instant, non. Mais en fait, quand l'IA conversationnelle sera intégrée à ton OS, ça rendra les smartphones beaucoup plus puissants pour les non technophiles. Moi, il y a énormément de questions que me posent mes parents sur leur iPad et sur leur iPhone. Un chat GPT, un Copilot, un Siri avec de l'IA pourraient répondre et même faire la manip pour eux. Mes parents, c'est à chaque fois, parce qu'ils oublient, ils n'impriment pas souvent, mais ils doivent imprimer des trucs. Comment déjà je fais pour imprimer sur l'imprimante sans fil que tu nous as offert ? Ils me redemandent. Une IA intégrée à l'OS d'Apple ou d'un Android pourrait le faire à leur place, en fait. Aujourd'hui, vous en rendez pas compte, mais pour utiliser pleinement un smartphone, faut être un peu technophile. Mais quand l'IA sera, imaginez quand l'IA sera dans les réglages de votre smartphone et que vous pourrez lui dire comment je peux faire pour avoir une luminosité encore plus faible sur mon iPhone quand je veux le lire dans le noir. Nous, on le sait qu'il faut aller dans les réglages d'accessibilité, régler le point blanc, etc. Mais une IA pourra le faire. Alors, tu veux dire que tes parents demanderont comment utiliser l'IA. L'IA, quand c'est bien foutu, c'est ultra simple. Tu appuies sur un bouton et tu lui poses une question, même d'une manière... Moi, je vous ai donné l'exemple là l'autre jour. Copilot, je lui ai dit, j'ai un problème avec une boîte mail. Je reçois des mails, mais j'arrive pas à envoyer des mails. Et ça se passe uniquement sur mon iPad. Dans quel réglage j'ai vraiment parlé comme ça, tu vois, hyper nature. Copilot a parfaitement compris le problème et m'a parfaitement aidé à le résoudre. Et en fait, c'était un vieux truc dans un SMTP qui était mal réglé, mais il m'a mené pas par pas Alors, j'ai dû le faire moi-même. La prochaine étape, c'est qu'il puisse le faire lui-même. En fait, des trucs comme Copilot ou un Siri avec de l'IA, et on va revenir à l'article, vont autant, si ce n'est plus, changer l'informatique que l'arrivée de la souris, de l'interface icône-souris. À l'époque où les ordinateurs ne se maniaient qu'avec un clavier et des commandes, l'informatique était réservée non seulement à des technophiles, mais à des gens qui savaient, des techniciens, des informaticiens. Hein. Moi, je me souviens, parce que mon premier PC, alors si j'avais une souris, mais les jeux, on les lançait encore avec le MS-DOS, avec des lignes de commande, et là, tu n'utilisais pas ta souris. Il était hors de question de lancer un jeu à partir de Windows. Windows était beaucoup trop lourd, prenait beaucoup trop de mémoire vive, et du coup, on ne pouvait pas lancer nos jeux. Hein. Donc l'arrivée de la souris a rendu accessible l'informatique à un beaucoup plus grand nombre. L'arrivée des tablettes et du touch et des smartphones a encore agrandi l'utilisation. Et l'IA va permettre virtuellement à tout le monde, même les gens les plus réfractaires et les plus et qui ont le plus de mal avec l'informatique, pourront débloquer la puissance de l'informatique. Donc, ne sous-estimez pas l'importance de l'IA dans les smartphones. Parce qu'en plus, c'est ce que je dis beaucoup dans mon entourage, l'IA, je l'utilisais avant. Mais depuis que je l'ai toujours dans la poche, à portée d'un bouton, c'est en train de devenir un réflexe. C'est en train de devenir mon point central d'utilisation de mon smartphone. Je n'ouvre plus le navigateur, je fais mes recherches directement avec Copilot. Dès que j'ai une question, qu'elle soit de cuisine, existentielle, m'aider à écrire une vidéo, me lire un article parce que j'ai la flemme de lire tout le site pour trouver une phrase, tout passe par Copilot pour l'instant. Est-ce que tout cela est vital pour la survie de l'humanité ? La domestication du feu n'était pas vitale à la survie de l'humanité. Le téléphone n'était pas vital à la survie de l'humanité. La voiture n'était pas... Enfin, voilà, on arrive dans... Ça, c'est d'autres débats. Qu'est-ce que l'humanité ? Jérôme, tu peux lui demander comment ne pas passer plus de 10 minutes par article. Challenge. Je suis trop long dans mes présentations live, je passe trop de temps sur les articles. Aurais-tu une solution pour moi ? Alors, je suis en GPT-4, ça lui prend un certain temps pour répondre. C'est pas encore parfait.
Bonjour, je suis Copilote, votre assistant virtuel. Je peux vous aider à créer des présentations live plus courtes et efficaces. Voici quelques conseils que j'ai trouvés sur le web. Débutez avec une accroche ou une histoire émouvante ou percutante qui capte l'attention de votre public. Présentez le problème que vous essayez de résoudre et la solution unique que vous proposez. Soyez clair et concis dans votre discours, évitez les détails inutiles ou les répétitions.
Non mais ça c'est pas possible.
Utilisez des visuels qui étaient votre message, comme des graphiques, des images ou des vidéos. Rendez votre présentation interactive en posant des questions, en faisant des sondages, en organisant des jeux ou en demandant des retours à votre public.
Vous voulez des jeux, des sondages, plus ?
Ces conseils vous seront utiles. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre diaporama ou votre vidéo, je peux aussi vous proposer des modèles gratuits et personnalisables. Bonne chance pour votre présentation.
Alors,
faire un diaporama en ligne, facile. Un tuif Canva.
Tais-toi, s'il te plaît. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, la réponse, elle est très sommaire et elle est banale. Pourquoi ? Parce que Copilot ne me connaît pas encore. L'avenir de l'IA, si on veut un Jarvis, si Jarvis est efficace, c'est parce qu'il connaît Tony. Il le connaît même de manière assez intime. Et ces objets-là, alors après, il y a toutes les questions de confidentialité, de sécurité. Mais ces objets-là, qu'on a toujours sur nous, nous connaissent comme personne. connaissent la moindre de nos habitudes. Quelque part, un Siri Jarvis intelligent connaîtrait ma manière de présenter les lives et pourrait me donner des conseils personnalisés sur ma manière de présenter les lives. Ah mais attends, Briaros, on est tout à fait d'accord. Un des gros problèmes, si on veut des Jarvis, c'est comment faire que Jarvis ait la discrétion d'un majordome. Un majordome, un bon majordome, il amène les secrets de son maître jusque dans la tombe. Et effectivement, ça va poser d'énormes problèmes de confidentialité. Hein. Je ne me cache pas derrière un enthousiasme technophile. Si j'attends autant une IA de la part d'Apple, c'est que Apple, d'un point de vue hardware et dans ses engagements commerciaux, ne fait pas commerce de mes habitudes. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, Apple ne fait pas d'argent avec l'analyse de mes habitudes. Je suis même pas en train de te dire qu'Apple ne collecte pas mes données, puisque Apple les collecte, mais Apple n'utilise pas cette collecte de données en revendant du profilage publicitaire à d'autres entreprises. Ils l'utilisent en interne pour faire des pubs sur l'App Store, ça oui. Mais ils ne revendent pas ce profilage comportemental à d'autres sociétés. Donc, désolé, on est parti dans une grande explication, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi Apple ne peut pas attendre 2-3 ans pour que l'IA arrive sur l'iPhone. Parce que, et je ne pense pas que je suis le seul, j'en ai discuté aussi avec des collègues, nous, effectivement, comme on fait un travail de technophile, on a adopté l'IA assez rapidement, puisque même utiliser l'IA fait partie de notre travail, dans le sens, est-ce que c'est vraiment utile, etc. Mais pour la plupart d'entre nous, on utilise de plus en plus l'IA comme un assistant, hein, pas comme quelque chose qui fait notre travail à notre place. Et que si nos smartphones n'intègrent pas mieux l'IA dans l'avenir, ça pourrait nous faire changer de crèmerie. Donc, c'est pour ça que je dis que Apple, contrairement à d'autres technologies plus hardware, Apple ne peut pas se permettre de prendre 3 ans de retard sur l'IA. Avec tous les dangers de l'IA, hein, attention, je ne suis pas non plus en train de dire que l'IA, c'est un avenir meilleur pour l'humanité. Je dis juste que l'IA est inévitable. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas dire « stop, pas d'IA ». C'est trop bien par certains aspects, l'IA. Mais c'est très dangereux. Il va falloir légiférer très rapidement aussi autour de l'IA. Donc voilà, c'est ce qu'on attend avec iOS 18. C'est ce qu'on attend le plus. Est-ce que Apple va profiter de la sortie d'iOS 18 pour annoncer ce qu'ils veulent faire au niveau de l'IA? Suspense jusqu'en juin. Voilà. Mais je suis très clair et je reprends mon engagement auprès de vous. Si Apple prend 3 ans de retard sur l'IA, ça va être compliqué pour moi de continuer à utiliser l'écosystème Apple. Je le dis franchement. Parce que c'est très vrai. Vous voyez, je suis obligé d'utiliser tant bien que mal de l'IA sur mon iPhone, mais elle n'est pas assez intégrée à mon iPhone et à mon écosystème. Et je vois ce qu'a fait Samsung. L'intégration n'est pas totale et on est encore très loin d'un Jarvis dans les galaxies. Mais l'intégration de fonctions d'IA dans certaines utilisations du smartphone rend de grands services. Voilà. Allez, on passe à l'article suivant. Je vais aller très vite parce que j'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Je vais essayer d'aller très vite. Soyons humbles. Un humain a reçu pour la première fois l'implant Neuralink d'Elon Musk. Décidément, aujourd'hui, les technophobiques, c'est une émission très dure pour vous. Vous êtes comme ça derrière votre canapé. Quoi ? Maintenant, on va avoir des puces dans le cerveau ? Oui. Un humain a reçu pour la première fois l'implant Neuralink d'Elon Musk. Elon Musk s'est exprimé sur X le 29 janvier pour faire cette annonce. rapporte CNN. Le premier humain à avoir reçu l'implant Neuralink se porte plutôt bien. L'entreprise recrutait des personnes atteintes de tétraplégie causée par la maladie de Charcot ou un endommagement de la moelle épinière cervicale, d'après CNN. Un robot a installé la puce dans les zones du cerveau responsables du mouvement. La puce pourra ensuite enregistrer les signaux du cerveau et les envoyer dans une application qui permettrait aux individus de contrôler une souris ou un clavier avec leurs pensées, indiquait Neuralink en septembre. L'idée d'une interface liée au cerveau ou au système nerveux a un grand potentiel pour aider les personnes atteintes de troubles neurologiques dans le futur, dit Tara Spires-Jones, présidente du British Neuroscience Association. Cependant, la plupart de ces interfaces demandent une neurochirurgie invasive et sont encore au stade expérimental, ce qui signifie qu'il va falloir encore attendre plusieurs années avant qu'elles soient disponibles. Tara Spires-Jones, présidente britannique, blablabla. En gros, pour vous la faire courte, mettre des puces dans le cerveau. Si je vous dis l'avenir de l'humanité, c'est de mettre des puces dans le cerveau. Vous allez tous faire « Black Mirror, quelle horreur !» Et vous avez raison. Si maintenant on dit mettre des puces dans le cerveau pour aider les gens qui sont atteints de tétraplégie, de maladies neurologiques graves, et qui ne peuvent même plus communiquer avec leur entourage et que ça va leur faciliter la vie, vous dites « Ah ça, c'est très bien !» Bah, là, on vient de vous faire une démonstration de qu'est-ce que la technologie. La technologie, ça peut être très bien. Ça peut être très dangereux si on commence à avoir des puces dans le cerveau. Ça pose plein de questions. Il faut légiférer. On n'est pas encore du tout à l'époque des charcudocs, hein, pour ceux qui jouent à Cyberpunk. Socialement, je pense que ça va mettre facilement 2-3 générations. Si acceptation il doit y avoir sociétale qu'on accepte de se mettre des puces dans le cerveau, dans le monde de cyberpunk, c'est socialement admis. Vous êtes d'accord? Dans pas mal de films d'anticipation ou de jeux vidéo d'anticipation, l'augmentation de l'humain par chirurgie en incluant du hardware ou du bio-hardware est socialement admis. C'est même, dans le monde de cyberpunk, une mode. Plus ton implant il est bien foutu, t'as une espèce de gloire avec les charcutocs qui, effectivement, intègrent ces puces. Oui, c'est l'excuse. Pourquoi ils peuvent commencer, c'est aider les personnes malades. En même temps, si t'étais une personne tétraplégique, tu serais peut-être content que cette technologie soit utilisée pour les maladies aussi. Je pense qu'on n'y est pas encore, hein, la puce. Il y a des pionniers, hein, qui commencent à se mettre des puces. Il y en a qui se sont mis NFC sous la peau. Ouais, Ghost in the Shell, on parlait déjà, effectivement. Tu sais, il y a tout un tas de trucs qu'on admet aujourd'hui d'un point de vue social. Je pense que tu aurais demandé à un être humain d'il y a 200-300 ans il accepterait de voler dans le ciel. Il y a toujours des moments de réticence par rapport à la technologie qui nous fait faire un truc complètement inhumain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de penser qu'on nous mette une puce dans le cerveau, ça paraît inhumain. Alors, c'est pour ça, soyons après... On n'y est pas encore. C'est ce qui précise la neurochirurgie invasive. Le cerveau, pour l'instant, on n'est pas encore méga à l'aise quand on se balade dedans, hein, quand on trifouille dedans. Hein. La carte Navigo dans le poignet. Jérôme veut sa puce IA direct dans le cerveau, sinon il quitte Apple. Écoute, je me disais un truc, justement, et on arrivera en fin d'émission en parlant de ça. Le Vision Pro, le spatial computing, aujourd'hui, vu le bazar qu'il faut faire pour donner l'impression de la réalité augmentée, finalement, une petite puce sur le nerf optique qui transmet les données m'évite de trimballer un gros machin sur la gueule. Eh ! Après, il faut juste que j'ai une bonne probabilité que ça ne me bousille pas le nerf optique. Mais eh ! Donc, pour l'instant, on est obligé de mettre beaucoup de trucs à l'extérieur du corps. Moi, une Apple Watch intégrée au poignet, sous-cutanée. Eh. En fait, Oleg, alors... En fait, je mesurerais vraiment d'abord le risque. Il faudrait effectivement que le risque sanitaire... Ce que tu dis, tu ne vas pas faire ça à un corps parfaitement sain. Effectivement, il faudrait que les garanties sanitaires, que les conséquences de mettre une puce dans la peau ne soient pas plus importantes que de se percer une oreille. Voilà. Déjà, il me faudrait cette garantie médicale-là. C'est pas... plus dangereux pour mon organisme, même à long terme, que de me percer une oreille. Sachant, et je le sais parce que c'est tristement arrivé dans mon entourage, qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui meurent d'infection à cause d'un piercing. Hein. Et le piercing n'est pas indispensable, voilà. On va pas mettre le débat là-dessus. Ok ? Et après, je dirais que tout dépend de plusieurs facteurs. La maintenance... Parce que, est-ce qu'on peut me mettre de la technologie sous la peau sans maintenance, sans devoir la sortir pour une mise à jour ou un entretien ? Et le service rendu aussi. Donc, faut voir. Mais après, je sais, je suis un être humain vivant en 2024. Je suis un futur homme arriéré pour les générations futures qui auront peut-être une vision différente de la vôtre sur qu'est-ce qui est tolérable ou pas tolérable d'un point de vue humanité. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, tu prends l'exemple des pacemakers. On met déjà... de la techno dans les corps humains pour pallier à des problèmes médicaux. Donc, faut voir. Moi, je suis pas complètement fermé à l'idée, mais il me faudra des sérieuses garanties. Et ouais, si j'ai toutes ces garanties-là, que c'est pas plus douloureux qu'un piercing, etc., une puce qui me permet d'avoir de l'ARVR sans devoir avoir un dispositif externe, et j'y réfléchirai. Ouais, bon, là aussi, on pourrait avoir un débat, Oleg. Je comprends ce que tu dis. Hein. T'as un corps qui n'a aucun besoin de santé de se battre, de se mettre ces trucs chelous. On pourrait dire ces gens qui se font des piercings hein, ou des tatouages ou qui... Ça fait partie aussi de l'être humain. Notre rapport avec notre corps est quelque chose de complexe. À l'idéal, on devrait respecter notre corps comme un temple. Et pourtant, des gens boivent, fument, se font des piercings, prennent des risques, sautent en parapente. C'est un long débat. Ça fait partie de la dualité de l'être humain. On a un rapport un peu conflictuel avec notre vie et notre corps. Voilà. Il devait être rapide, l'article. Voyez, mais vous posez aussi des questions. Hein? Et puis, de toute façon, juste pour terminer quand même sur cet article, là, on en est encore très loin à des produits mass market. Les puces sous la peau, ça va rester dans les trucs de SF un bon bout de temps. Parce que dès qu'il s'agit quand même de médecine, là, il y a un temps incompressible de tests. Je dirais même qu'il faut une ou deux générations avant d'être sûr que le truc ne peut pas avoir des conséquences à long terme, quoi. Voilà. Mais non, mais Oleg, tu comprends ce que je voulais dire. C'est juste que... tout dépend. C'est pour ça que je t'ai dit... Si on me montre que ce n'est pas plus dangereux de toucher à mon système nerveux central que de me faire un piercing, mais pour moi, c'est une condition sine qua non. Si effectivement, il y a un doute sur la dangerosité, non, j'irai pas. Bref, allez, article suivant. Justement, de pire en pire ce matin. De pire en pire, Galaxy AI payant, Samsung, salut Léo, Samsung précise ses plans pour les smartphones Galaxy. Je vais juste faire une petite pause parce que je pense là à Léo et je pense que je n'ai pas remercié les contributeurs ce matin. Donc je fais une petite pause pour les contributeurs, j'aimerais remercier Xayer42 pour ton 26e mois d'abonnement. Je fais pas les rages, amour, machin, il faut qu'on aille vite, on a encore plein d'articles. Xayer42, merci pour ton 26e mois d'abonnement, merci La Pluche pour ton 19e mois d'abonnement, merci Nabil1913 pour ton 15e mois d'abonnement, merci Harry Potter 2WTFA pour ton 26e mois d'abonnement, merci Azerox pour ton qui a offert un abonnement communautaire, merci Moulin Art pour ton 2e mois d'abonnement, merci Davidinto 1957 pour ton 30e mois d'abonnement, merci Déclic 43 pour ton 36e mois d'abonnement, merci Mister Sei pour ton 17e mois d'abonnement, merci Cyril 82 pour ton 11e mois d'abonnement, merci Pierre Nieve pour ton 17e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs de ce matin. Ça sera toujours dangereux de tripatouiller les encéphales. Probablement, j'en sais rien, c'est un autre débat. Bon, bref, allez, on change d'article. Est-ce que Samsung va faire payer son IA ? Alors là, il y a eu effectivement une levée de bouclier parce que les Galaxy S24 arrivent bardés d'intelligence artificielle. Samsung annonce même que cette intelligence artificielle Galaxy AI va arriver sur les S23, et ça c'est une bonne nouvelle, également sur les Flip 5 et les Fold 5, et même sur les S23 FE, donc ce Galaxy AI, alors donc on se dit cool, et c'est des fonctions, je vous le redirai dans la vidéo qu'on est en train de faire, qui pour certaines sont vraiment utiles et vraiment cool à utiliser. Et moi, j'y vois des usages au quotidien. Mais derrière, Samsung a jeté un froid en disant « Oui, en fait, ces fonctions IA, ça va être gratuit jusqu'en 2025. Pardon. Jusqu'en 2025. » Putain, j'ai des sauts dans le temps, là, aujourd'hui. Et là, tout le monde a fait « Ah non, mais attendez, ça ne va pas être gratuit tout le temps, là, vos trucs IA, j'en veux pas !» Parce que ça risque d'être un problème. Si on s'habitue à certaines fonctions IA et que derrière, il faut payer encore un abonnement, non, non, non. Alors, Samsung a précisé un petit peu les choses. A priori, l'IA qu'ils ont mis dans les S24 et qu'ils vont mettre dans les S23, telle qu'elle est aujourd'hui, restera gratuite. Mais ils vont sortir des formules payantes pour des fonctions plus évoluées. Samsung, on nous a déjà fait ce coup-là. Donc, on est un peu échaudé. Hein. Oh, vas-y, t'as toute la place que tu veux pour mettre tes fichiers. On est 100% gratuit. Mettre toutes tes photos illimitées. Il suffit que tu achètes mon smartphone. Et c'est illimité. La musique, Apple TV, ce que tu veux. Illimité. Tiens, tu prends. Tu veux le saucisson, le cadre de Marrakech avec les lumières qui s'allument. Les plus vieux ont la ref. C'est pour toi, c'est pour toi. Et 2 ans après, alors... Si vous mettez vos photos RAW sur notre surface de stockage, il faudra prendre la formule payante machin. Si vous voulez que ça tourne en local, il faudra prendre l'abonnement truc. Bref, on nous l'a déjà fait, hein, la vaseline du marketing, le gratuit qui n'est plus gratuit au bout d'un certain temps. Voilà. Ben justement, le problème de la pollution, c'est le problème de la consommation des IA. Les IA, ça coûte très cher. Parce que maintenant, mettons-nous du point de vue de Samsung. Faire de l'IA, entretenir des serveurs, ça demande énormément d'énergie pour l'instant, même si on travaille très vite quand même sur des modèles très allégés pour que l'IA consomme beaucoup moins d'énergie. D'après les lectures que j'ai, là-dessus, on est en train de faire des progrès de géant. Il y a aujourd'hui des modèles de langage qui tourneront en local sur votre smartphone. Et déjà, il y a une partie de Galaxy IA qui tourne en local sur votre smartphone. Mais néanmoins, pour des recherches complexes, il faut taper dans des serveurs. Serveurs, entretien, bande passante, ça coûte très cher. Il faut des très, très gros serveurs pour faire tourner des modèles de langage. Hein, aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne vous mens pas, regardez ChatGPT, ils sont restés gratuits très très peu de temps. Très vite, alors que pour l'instant, quelque part, ChatGPT n'est pas encore à la recherche d'un modèle de profit, ChatGPT a dû, pour tenir, faire payer très rapidement. Microsoft aujourd'hui avec Copilot gratuit, Microsoft perd un fric, enfin dépense un fric de dingue, mais vraiment de dingue, que ça soit ça d'ailleurs ou le Game Pass, parce que le Game Pass vous payez pas le prix que devrait payer le Game Pass, hein, je vous le dis tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher à Microsoft le Game Pass que ça ne vous coûte. Microsoft dépense un pognon de dingue. Et ils ne pourront pas faire ça ad vitam aeternam. Ça va beaucoup les fragiliser. Je le disais sur Twitter l'autre jour. La stratégie de Microsoft de dépenser énormément d'argent pour nous embarquer sur Copilot et le Game Pass est une stratégie risquée. Parce que s'ils se plantent, ils auront tellement dépensé de cash que la sanction boursière, aujourd'hui, ils sont extrêmement bien valorisés à la bourse. Mais la sanction boursière peut être très rapide et très violente. Voilà. Non, mais le Game Pass, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une douille, ce prix-là. Déjà, ils l'ont augmenté, hein, plusieurs fois. Mais à mon avis, le Game Pass devrait coûter 3 fois plus cher pour être rentable. Rentable. Le pognon que ça coûte à Microsoft de payer les jeux qu'ils mettent sur le Game Pass est largement supérieur à ce qu'ils vous font payer. Bref, tout ça pour dire Samsung aura besoin de trouver un financement de son IA. Après, il reste prudent. En fait, ils attendent de voir le move. Parce que ça va être le même problème pour Apple s'ils arrivent avec l'IA. Ça va être le même problème pour Microsoft. C'est le même problème pour OpenAI. Comment à la fois rendre les gens accros à l'IA, leur dire « Hey, regarde la dose là, d'IA que je te mets. Ça va être un... Regardez, moi, je suis accro à l'IA. Ça y est, je suis accro à l'IA, j'ai des tremblements dès que j'ai pas d'IA. » Ça a marché. Et maintenant, il va falloir me faire payer. Alors, en vrai, je paye déjà pas mal pour l'IA. On paye nos Midjourney, on paye ChatGPT, on paye pas mal de services. Et ça vaut cher, hein. Mais on les paye à travers l'entreprise, ce qui n'est pas exactement la même chose. Maintenant, en tant que particulier, pour l'instant, je ne paye pas d'IA. Je suis un craquette de l'IA. Exactement. bientôt de l'IA disponible en salle de shoot. Exactement. Exactement. Tout ça pour dire que ça va quand même être un problème. Donc Samsung, c'est bien d'essayer de nous rassurer. Va voir. Je pense qu'on aura du mal quand même à faire payer le particulier. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller mollo quand même avec l'IA et les grands modèles de langage. Mais aujourd'hui, on le voit notamment avec ce que fait Mistral, hein, la start-up licorne française sur l'IA. Mistral est devenu extrêmement bon au niveau mondial pour développer des modèles de langage beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, qui demandent beaucoup moins de ressources, beaucoup moins d'énergie, avec un taux de fiabilité approchant des grands modèles de langage. Donc aujourd'hui, en gros, on est dans l'optimisation de l'IA. Les premières IA, c'était compression, rien à foutre, on s'étale. Vous allez voir notre puissance. Là, très vite, le marché est en train de s'orienter sur comment on peut faire marcher le bousin avec peut-être un tout petit peu plus de paresse au niveau de l'IA. Allez voir les vidéos de Micode. Micode, tu es quelqu'un de génial parce que je comprends des trucs que je pensais pas comprendre grâce à tes vidéos. Voilà, je fais un compliment à Micode et à toute son équipe. Non, franchement, les vidéos où il explique effectivement pourquoi les IA deviennent paresseuses en ce moment et que c'est plutôt une bonne chose en fait. C'est-à-dire les IA vont donner des réponses plus courtes, moins complètes. Mais ça leur permet d'être beaucoup moins consommatrice d'énergie et de puissance. C'est hyper intéressant. Bref, aujourd'hui, effectivement, l'IA est à une phase hyper bêta. Aujourd'hui, et un pote me donnait une analogie assez intéressante. Il me dit, l'IA, c'est comme quand on a inventé l'image numérique avant d'avoir inventé la compression JPEG. Ou la musique numérique avant d'avoir inventé le MP3. C'est-à-dire, c'est beaucoup trop lourd. Mais les progrès vont être très rapides de ce côté-là. Donc, on verra. On verra si ça devient payant. C'est très risqué quand même au niveau marketing pour Samsung. On verra ça. L'affaire Taylor Swift. Alors, si vous n'avez pas suivi, et ça va être l'avant-dernier article, l'affaire Taylor Swift, il y a eu effectivement l'évolution rapide de l'IA a conduit à une prolifération sans précédent des contenus X générés par intelligence artificielle. Certaines plateformes comme YouTube tentent de protéger les artistes contre ce type de contenu. Récemment, X a aussi réagi à la diffusion de fausses images pornographiques concernant Taylor Swift. La plateforme a tout simplement bloqué les recherches dans ce sens. On pouvait même plus chercher le mot Taylor Swift sur X pendant un court laps de temps, le temps qu'il fasse le ménage en fait. La proposition de loi défiance aux États-Unis vise à établir un cadre légal permettant aux victimes de telles pratiques de demander réparation. La proposition de la loi défiance, Disrupt Explicit Forget Image and Non-Consensual Edit, ça me fait mourir de rire comment les mecs trouvent des acronymes qui ont du sens et derrière, ils doivent trouver ce que veut dire l'acronyme. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est un autre débat. Qui vise à fournir un moyen légal aux victimes de telle pratique de réclamer réparation. Son but est de cibler spécifiquement ceux qui produisent ou détiennent intentionnellement ces images dans le but de les propager. Ce cas représentant des risques liés à l'usage détourné de l'IA pour créer des contenus préjudiciables a accéléré l'action législative. Ceci souligne la nécessité d'adapter les lois à l'évolution des technologies et les menaces qu'elles peuvent engendrer. Alors, je sais, hein, la réaction de la partie d'une partie de la chatroom. C'est exactement le type de réaction qu'on a, on dit « Ouais, quelqu'un s'est fait voler des photos de lui tout nu où il montre son aubergine ou sa pêche. » Beaucoup de gens disent « Bah, ils avaient qu'à pas faire la photo. » Donc, plutôt que de dire « C'est mal que des gens piratent ce type de photo », on se retourne vers la victime et on dit « t'avais qu'à pas faire la photo ». Attention à ce biais. Parce que là, on va avoir certains, et je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, ont le même. Oui, mais si on fait des fakes, des deepfakes de toi, toutes nues, sur Internet, c'est la rançon de la gloire. T'avais qu'à pas devenir célèbre, Taylor. Hein ? T'aurais pas eu des photos de toi toutes nues si t'étais pas célèbre. Donc c'est un peu de ta faute. Hein ? Tu l'as bien voulu. Tu l'as un peu cherché. Hein ? Tu gagnes des milliards de dollars, tu vas pas venir chouiner pour des petites photos de toi nues sur Internet. Ok ? Bon, maintenant, si je vous dis qu'avec les technologies de deepfake, je n'ai pas fait l'article la semaine dernière parce que Marion, on l'a lu, c'était absolument dégueulasse. Il y a des mecs maintenant qui utilisent... pas le bon coin. Merde. L'appli pour vendre des vêtements d'occasion. Aidez-moi, parce que je ne l'utilise pas. Vinted. Il y a des mecs qui utilisent des photos de Vinted pour créer des deepfakes d'anonymes. Parce que dans le porno, le amateur, c'est-à-dire le non-célébrité, ça cartonne. Donc maintenant, quand vous postez une photo sur Vinted, faut vous dire que vous pouvez vous retrouver sur un site de deepfake. Ok ? Donc, des personnes de votre entourage proche, vous. Et là, ah bah t'avais qu'à pas poster des photos sur Vinted. Moi, à mon époque, voilà, moi je vendais mes vêtements sur le marché. Ça m'arrivait pas. Ok. Vous avez une photo de vous sur Internet, vous pouvez subir exactement la même chose que Taylor Swift. Voilà. Donc, il y a un problème. Donc, il faut légiférer. Vous me direz, on n'empêchera jamais des mecs de faire ce genre de truc. Et disons-le franchement, hein, c'est à 99% des images de femmes sur des corps de femmes. Le premier qui me dit « Oui, mais c'est aussi fait sur des mecs virtuellement. » Voilà, je te mets de côté. 99,9% des deepfakes porno sont le détournement d'images de femmes sur des corps de femmes. Point. 99,9%. Venez pas me chier dans les bottes avec le 0,01% d'exception. Oui, des hommes se font violer aussi. Oui. Mais raisonnez en statistique pour voir qu'il y a un problème aussi culturel. On ne résoudra pas le problème des deepfakes porno sans un changement, une mutation culturelle du regard des petits garçons sur le rapport au corps de la femme, l'impression qu'une célébrité nous appartient, rançon de la gloire, tout le tralala, y a des changements culturels. Aujourd'hui, on devrait avoir honte pour la plupart. Après, vous aurez toujours un pourcentage de gens déglingués. C'est incompressible. Il y aura toujours des déglingués. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de petits garçons, et quand je dis petits garçons, il y a des petits garçons qui ont 60 ans. Hein. Beaucoup de petits garçons ne voient pas le mal. Ouais, je suis colère. Je suis colère parce que je me dis, putain, ça va prendre des générations, ce changement culturel. Il faudrait qu'on aille plus vite là-dessus, quoi. Alors, je sais, vous, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre que Taylor Swift se retrouve sur des corps nus, vous ne voyez pas le problème, pour certains. Bah, maintenant, mettez la tête de votre maman, de votre sœur, sur la même image, et regardez si ça ne vous dérange pas, que ça circule. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bah, on n'avait pas dit les mamans. Bah, justement, c'est ça le problème. Il n'y a plus de limite. Donc, je sais ce que vous allez dire. Ça ne sert à rien. Cette législation ne va pas empêcher des mecs de faire ces trucs-là, de créer des deepfakes. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, de toute façon, on ne peut pas empêcher les mecs. Par contre, qu'on ait l'arsenal juridique qui permette à une victime d'attaquer des personnes qui font ça, ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, notamment, par exemple, en législation française, il n'y a pas toutes les armes qu'il faut pour pouvoir attaquer quelqu'un qui crée un deepfake. Alors, vous allez me dire, mais on ne le retrouvera jamais. Bah oui, mais si on le retrouve, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a même pas les moyens de l'accuser, en fait. Donc, première étape législative, donner les outils juridiques pour rendre ces choses-là répréhensibles. Que un adolescent avec de l'IA ne se sente pas en impunité totale aujourd'hui de prendre des têtes de célébrités et de les coller sur des corps nus ou de générer quelque chose. Voilà. Donc, oui, le problème est complexe. On ne retrouvera pas les mecs aussi facilement que ça. Hein. Je sais ce que c'est que ce qu'est Internet. Il y a des possibilités. Puis ces trucs sont partagés, repartagés, ça va très vite. Mais il y a quand même des moyens aussi pour retrouver les sources. Et il faut qu'on ait l'arsenal juridique pour que ces mecs payent très cher. Que ça soit la photo de votre maman sur Vinted qui est détournée ou la photo de Taylor Swift. Je ne vois pas pourquoi Taylor Swift devrait avoir plus de problèmes que votre maman. Voilà. Et je sais que ça fait partie de mes chevaux de bataille, mais il faut vous enlever de la tête cette phrase de la rançon de la gloire. Elle est hyper toxique. Parce que ça justifie... Vous vous souciez de la vie privée, mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui effectivement a de la gloire, ou s'est fait connaître, elle n'y a plus droit du tout. C'est la rançon de la gloire. Faut payer. Il y a une forme de, en fait, il y a une forme de somme incroyable dans cette phrase, la rançon de la gloire. On est en... C'est sûr, hein, la gloire, on se dit, il a une vie hyper facile, ou elle a une vie hyper facile, ils sont riches, ils sont connus, c'est le bonheur. Jugez jamais les problèmes des autres. Comment tu sais que ma mère est sur Vinted? Toutes vos mères sont sur Vinted. En fait, le problème de la phrase « la rançon de la gloire », c'est qu'elle porte en son sein, cette phrase, un cautionnement de violence qui peut ne pas avoir de limite. Hein, donc oui, elle peut être très toxique. Et encore une fois, elle est très similaire à la phrase « Ah bah si ça t'arrive, t'aurais peut-être pas dû mettre une mini-jupe. T'aurais peut-être pas dû faire une photo de toi toute nue. T'aurais peut-être pas dû et puis ça ne te serait pas arrivé. » Toujours culpabiliser les victimes avant de s'en prendre aux coupables. Un paparazzi qui coupe la route d'une célébrité et provoque un accident... on va dire, il avait qu'à pas être célèbre. Bref. 9h30. Putain. Je vais en parler quand même aujourd'hui et on va continuer à en parler demain parce que demain, c'est le mug du vendredi. Je pense qu'on reparlera du Vision Pro parce que vous n'avez peut-être pas vu toutes les vidéos. Mais effectivement, je voulais qu'on en parle un petit peu quand même ce matin. Le Vision Pro, depuis un ou deux jours, les premières vidéos sortent. Alors, assez, quand on compte vraiment, il y a assez peu de YouTubeurs ou même dans la presse, ils ne sont pas beaucoup à l'avoir eu. Il y a le Wall Street Journal. Alors en France, de ce que je sais qu'il y a Mister Perrier en Suisse, je crois qu'il va le recevoir ou qu'il l'a reçu. Mais je crois qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui, en France, en tout cas dans la tech, de ce que je sais, comme il est très dur à utiliser en France, personne ne l'a commandé aux États-Unis. Enfin bon, bref, fin de la parenthèse. Aux États-Unis, dans les influenceurs et journalistes tech, il y en a assez peu. Il y a MKBHD, il y a iJustin. Il y a un autre mec dont je ne me souviens jamais le nom, qui a une houppette et des cheveux décolorés jaunes. Je ne sais plus qui c'est. Voilà, Brian Tong, merci. Brian Tong, il y a The Verge, il y a le Wall Street Journal avec, j'ai oublié son nom, elle est très bien sa vidéo, la journaliste. Non, je parle de ceux qui l'ont reçu avant demain. Il y a CNET aussi. En fait, demain, tous ceux qui l'ont commandé vont le recevoir, enfin, qui ont réussi à avoir la date de livraison, la première date de livraison, vont le recevoir demain. Donc, je pense que Casey Neistat fera une vidéo peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Johanna Stern, merci. Là, c'est vraiment ceux qui l'ont déjà depuis plus d'une semaine et demie. Donc, des journalistes ou des grands influenceurs tech comme MKBHD. Ouais. Il l'a reçu, oui. Il a même fait deux vidéos déjà. Une hier et une que j'ai vue ce matin. Non, une avant-hier et une hier. Alors, pour vous dire, et peut-être pour qu'on en parle ensemble demain mieux. Moi, les trois vidéos que je vous recommande, les quatre vidéos que je vous recommande pour le Vision Pro, c'est celle de The Verge que j'ai préférée. Je trouve que The Verge pose des vraies questions profondes et hyper intéressantes. Hyper intéressantes. Bref, c'est la vidéo que j'ai préférée. En deuxième position, je mettrais donc... ouais, il est très pro, Patel. Et en fait, je vais vous donner deux extrémités. Et j'aime bien iJustin. Je comprends ce qu'elle fait. iJustin, c'est... Ouah, c'est amazing. J'exagère un peu, mais c'est... Elle est dans l'émerveillement Apple. C'est pour ça que Apple lui file des produits aussi. Elle est dans une certaine candeur Apple qui fait du bien aussi, hein. C'est cool de voir aussi de l'enthousiasme. C'est quand même des technologies incroyables. Donc, vous avez iJustin et l'autre bout du spectre, vous avez Patel. Patel ne démolit pas le Vision Pro. Patel pose des vraies questions. Et ce qui est très intéressant, c'est que Apple ne peut pas se passer de The Verge. Ils savent que The Verge va peut-être faire la vidéo la moins conciliante du lot. Mais s'ils ne l'envoient pas à The Verge, ça risque d'être pire pour eux. Et je trouve que MKBHD a aussi cette place-là. Apple ne peut pas ne pas envoyer. En fait, en dehors de MKBHD, dans les YouTubers, tous les autres YouTubers, désolé, je vais être brutal là-dessus. Mais si t'es pas... Si tu ne rentres pas dans les guidelines des RP Apple... Ils te prêteront jamais un produit. Regardez un mec comme Unbox Therapy. C'est un gros YouTuber. C'est lui qui a tordu l'iPhone 6. Apple lui a jamais pardonné. Apple ne lui filera zéro produit. En France, aujourd'hui, et disons les choses, c'est pas un jugement parce que je suis super content pour The High Collection. Je suis super content pour Brandon, ceux qui se font prêter des produits Apple par Apple. Mais tant que tu n'es pas dans le petit carnet d'Apple, ils ne te prêtent rien du tout. Ils ne répondent pas à tes mails, tu n'existes pas pour Apple. Et ce n'est pas une question de taille. Je pense qu'il faut être Apple compliant. Voilà. Ouais, Stern, il est aussi au Wall Street Journal. Hein. Ouais. Alors, j'étais en train de dire la deuxième vidéo que vous devriez regarder. La première, c'est The Verge. Elle est extrêmement bien faite, beaucoup aimée. La deuxième, c'est celle du Wall Street Journal. On m'a donné le nom de la journaliste. Elle n'est pas longue, de Joanna Stern, qui a passé 24 heures, enfin, elle l'a enlevée pour dormir, mais elle a passé 24 heures avec le Vision Pro. Et elle a un regard pas trop technophile, justement, sur le Vision Pro, et qui est hyper intéressant. Les deux autres que je trouve intéressantes. Alors, les autres sont intéressantes aussi, hein, mais si vous devez regarder dans l'ordre de priorité, c'est bien sûr celle de MKBHD. Son unboxing est très intéressant, alors que les unboxings, ça me fait chier d'habitude et je les zappe. Moi, les unboxings, ça m'intéresse plus du tout. Je trouve que ça fait très old school. Vous avez vu que sur la chaîne, on vous fait pas du tout les unboxings parce que on trouve que c'est un exercice. En plus, c'est un exercice consumériste malsain. Ça, c'est mon avis personnel. Le fétichisme de l'ouverture des boîtes. Bref, son unboxing à lui est très intéressant. Et la vidéo qu'il a fait hier, qui est même pas sa vidéo définitive. Hein. Il le dit, il veut faire une vidéo encore plus profonde. Pose aussi des questions très intéressantes. Jérôme, le Vision Pro est réservé à qui? Aux pros ou aux jeunes, aux gens qui ont 3 500 € à dépenser? Pour l'instant, alors moi je vous le dis sans l'avoir eu en main, mais je suis quand même sûr de mon coup. À 3 500 €, vous achetez un prototype. Et je vais même aller plus loin. Apple n'a jamais sorti un produit dans un état aussi prototypal. Et pourquoi? Parce que ce produit est extrêmement pionnier sur énormément de choses. Apple, là, quelque part, ils ont mis, toute proportion gardée, un peu leur couille sur le bio. Ils se lancent dans un truc où tout le monde s'est planté, vraiment, dans les chiffres. Meta, pour l'instant, n'arrive pas à vendre ses casques VR. La VR est un flop. Apple se lance sur un marché compliqué qui a floppé déjà plusieurs fois. Depuis les années 90, hein, on parle de la VR, qui a jamais fait ses preuves. Et en plus, en développant des technologies qu'on n'a jamais vues dans la VR. Et il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Ce n'est absolument pas un produit. Et pourquoi Apple, vous allez dire, mais pourquoi ils n'ont pas gardé leur prototype dans leur labo et qu'ils n'ont pas attendu, comme ils le font d'habitude, 2-3 ans avant d'avoir un produit fini? Parce que c'est des technologies tellement novatrices et des usages tellement novateurs qu'ils ne savent même pas ce qu'on va en faire. Un peu comme l'Apple Watch Zero, toute proportion gardée. Ils ont pris moins de risques quand même avec l'Apple Watch Zero. Ils ont besoin de voir comment s'oriente le marché. Je vais vous donner un exemple. Le fait que le Vision Pro affiche les yeux et toute la question du persona qui est creepy, qui est technologiquement incroyable, le fait que ça scanne votre visage et ça fait un alter ego numérique et vous pouvez parler avec des gens, mais le résultat est cringe à mort. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Apple s'est dit que oui, parce qu'ils ne voulaient pas lancer un énième casque VR aveugle. Un truc de taupe. Mais peut-être que le marché va leur dire, bah, finalement, c'est pas si horrible un masque, si ça permet d'avoir un masque plus léger. Apple, enlevez-nous ses yeux. Ou en tout cas, faites-nous une version light. Une version light sans les yeux, sans le persona parce que je m'en tape. Moi, je veux juste travailler sur un écran virtuel, faire du jeu vidéo et regarder des films. Donc, fais-moi la version SE du Vision Pro. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que Apple va orienter aussi le Vision Pro. Pour l'instant, c'est un prototype qui fait tout. Certains trucs marchent, d'autres ne marchent pas. 3 500 €. Alors, ça aussi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je pense que si Apple le vend 3 500 $, Et disons-le, il faut débourser 4 000 $ pour le faire fonctionner. Et ça sera probablement 4 500 € en Europe qu'il faudra dépenser. C'est pas pour exclure des gens de l'achat. C'est qu'aujourd'hui, ça leur coûte à peu près ça de le faire. Comme c'est un prototype, il est fabriqué. Je sais qu'ils en ont vendu 200 000 et vous dites, ouais, mais c'est énorme en production. Pour Apple, 200 000, c'est de la petite production, hein. Ils ont pas, c'est pas produit dans des grandes usines à haute fréquence. Les deux écrans qui équipent le Vision Pro, c'est Sony qui les fait. Il y a un taux de rejet des écrans qui est hyper haut. C'est-à-dire pour un écran de cette taille-là qui marche, ils doivent en jeter 10 à la poubelle. On n'est absolument pas dans l'industrialisation du truc. Donc le prix aujourd'hui de 3 500 €, c'est pas tant question de le réserver aux développeurs ou aux riches, c'est plutôt que ce prototype coûte extrêmement cher. Je mettrai ma main coupée que dans le futur, dans les 5 ans à venir, la gamme Vision Pro, il y aura toujours un Vision Pro à plus de 3 000 €. Le Pro restera très très cher et il sera très extrême dans ses fonctions et dans sa finition. Mais il y aura au moins un ou deux produits intermédiaires avec moins de fonctions qui seront moins chers, voire beaucoup moins chers. Mais du coup, sur un prototype, ils appliquent toujours la règle des 30%. J'en sais rien, je ne suis pas dans la comptabilité d'Apple. Je sais juste que le Vision Pro, aujourd'hui, dans son état prototypal, coûte extrêmement cher à Apple. Après, je n'ai aucun doute. Apple, ils ne vont pas le vendre à perte. Ils cherchent au moins la rentabilité sur le prototype. Mais clairement, si vous l'achetez aujourd'hui, c'est un prototype. Alors après, vous avez le droit d'être collectionneur, de vouloir... Moi, c'est ce que je disais hier à mon équipe, parce qu'on se disait, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? De toute façon, quand il va arriver en France, ça va être la foire d'empoigne. Nous, on l'aura probablement avec 3 mois de retard. Bon, mais au-delà de ça, est-ce qu'on le prend? Parce que nous, on n'a absolument pas de petit papier chez Apple, ils ne nous le prêteront pas. Voilà, il va falloir qu'on l'achète, qu'on fasse... Et on n'a même pas un moyen d'aller plus vite que vous pour quand on les commande. Donc, je pense que ça va être l'horreur. Mais est-ce qu'on le prendrait? En fait, la question, c'est pas est-ce qu'on le prendrait, parce que bien évidemment qu'on va essayer de le prendre pour faire une vidéo sur la chaîne, mais c'est plutôt est-ce qu'on le garderait après le test? Aujourd'hui, de ce que j'ai vu, moi, à titre perso, je le garderais pas. Voilà. Je suis pas collectionneur de tech. J'ai pas une armoire avec tous les vieux iPhones. On les revend. Alors, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on arrivera à le revendre? C'est presque la question qui m'angoisse le plus. Non, on n'a même pas un pote en Apple Store. Et en fait, les potes dans l'Apple Store, ça aide pas. Parce que le problème des réductions Apple Store, c'est que les produits n'étaient pas prioritaires dessus. Tu sais, c'est très verrouillé hein, maintenant, les achats chez Apple. Est-ce qu'une vidéo sur le Vision Pro, on rembourse le Vision Pro? Alors là, je peux te dire non. Ça dépend le sponsor qu'on a dessus. Nous, une vidéo, déjà fabriquer une vidéo, au minima, ça nous coûte entre 3 000 et 4 000 €. Si le produit qu'on teste dans la vidéo vaut 4 000 €, ça fait déjà une vidéo à 8 000 €. Ah, faut que je trouve un bon sponsor, hein. Non, tu peux pas réserver des produits chez Apple, hein. Ben, le système Apple, il est même pas contrôlé par la France. Enfin, c'est... Un grand merci à CIP Digital qui a offert 10 abonnements communautaires. Merci Xayer42 aussi pour ton Prime, 26e mois d'abonnement. Merci La Pluche pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Nabil pour ton 15e mois d'abonnement. Est-ce que j'ai remercié tout le monde après? Je crois, ouais. Oui, et de toute façon, en analysant les ventes d'Apple, certains ont dit « Ouais, Apple, ça a cartonné le Vision Pro, ils en ont vendu 200 000. » Ils en ont en stock pour demain. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir rentrer en boutique et acheter leur Vision Pro. Et en fait, les précommandes se sont très vite tassées. C'est-à-dire que Apple en a vendu 200 000, ce qui veut simplement donner l'indication qu'il y a 200 000 personnes Allez, on va dire. Il y a 20 000 influenceurs, journalistes, youtubeurs, développeurs, qui l'ont acheté parce qu'ils en ont besoin pour faire leur boulot. Je dirais à peu près 20 000. Entre les développeurs, journalistes, influenceurs. Le reste, c'est juste des mecs qui ont des problèmes de FOMO. Mais je ne leur reproche pas. C'est leur passion d'acheter le dernier produit. Sinon, ils ont peur de rater quelque chose. Ça les angoisse terriblement. J'ai vu des mecs annuler leur commande juste parce qu'ils n'allaient pas le recevoir jour 1. Eux, leur bonheur, leur plaisir, c'est de recevoir ce type de produit jour 1. C'est même pas des curieux. D'abord, c'est des gens qui ont de l'argent, prêts à mobiliser autant d'argent pour leur FOMO. C'est des early adopteurs atteints de FOMO qui ont des peurs pathologiques de rater le dernier produit qui sort. Mais c'est leur plaisir aussi. Ils se complaisent dans leur pathologie. Mais voilà, c'est leur plaisir. Eux, leur bonheur, c'est d'avoir le produit jour 1. Voilà. FOMO, c'est fear of missing out. Fear of missing out. C'est une peur qu'on a de rater quelque chose, même si on n'en a pas besoin. C'est vous recevez un truc, on vous dit il y a quelque chose de gratuit à gagner dans tel magasin. Tu ne sais pas ce que c'est, le magasin ne t'intéresse pas, mais tu vas y aller parce que tu as peur de le rater. Ça peut être une forme de fear of missing out. Ton angoisse sur les réseaux sociaux qu'on avait autrefois et que certains ont encore, je ne peux pas arrêter de regarder les réseaux sociaux parce que je ne vais pas être au courant de la dernière news. Ah, je n'ai pas le dernier smartphone. C'est une forme de FOMO, en fait. Oui, on en avait parlé des scalpers la semaine dernière. Oui, je pense qu'on va terminer à 10h, hein, Samuel, soyons réalistes. Le fear of missing out, ça, on peut être atteint de FOMO sur tout un tas de sujets. Hein. Vous pouvez être amateur de mode et avoir un FOMO, quoi. Louper les streams Nowtech, c'est une forme de FOMO. Mais après, je m'adresse aux gens qui ont un budget. Même si vous avez les 4000 euros, vous m'entendrez jamais. Et même avant de l'avoir testé, je peux vous dire, n'achetez surtout pas le Vision Pro. Après, vous pouvez avoir très envie d'acheter le Vision Pro. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est vous avec vous-même. Mais aujourd'hui, le Vision Pro ne va pas satisfaire des besoins que vous avez. Même moi, au niveau, je disais, moi, de pouvoir trimballer mes écrans avec moi, ça peut être quand même cool. Vu l'encombrement de l'objet, les problèmes de batterie, les problèmes de basse luminosité que ce prototype a, pour l'instant, il ne m'est pas utile. Par contre, je crois à la vision d'Apple de l'ordinateur spatial, mais clairement, cet objet-là n'est pas encore ce que Apple veut faire. On n'y est pas encore à l'ordinateur spatial. Je trouve que le titre, je vais vraiment m'arrêter là après et on en reparle demain. Je vous conseille d'aller voir les vidéos et on en reparle demain. Le titre de The Verge est le meilleur titre. Ce n'est pas un titre à guicheur d'ailleurs, parce que c'est quand même The Verge, ils n'ont pas trop besoin de... Enfin, ils en font quand même des titres à guicheur. Je les vois venir. Mais leur titre en anglais, c'est « It's magic until it's not ». Qui est une très belle formule en anglais. En gros, en français, c'est « Le Vision Pro est magique jusqu'à ce que ça ne soit plus magique. » Et c'est vraiment ce que dit Patel dans la vidéo. Il dit « Passer la phase d'émerveillement de la technologie embarquée qui est loin devant tout ce que fait la concurrence. » Il y a des choses qui ne marchent pas, en fait. Clairement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On en reparle demain matin. Je pense qu'on reparlera du Vision. Je vais laisser certains d'entre vous aller voir les vidéos. Elles sont en anglais. Hein. Il n'y a que... enfin, il y a pour la plupart, c'est que des influenceurs pour l'instant américains qui ont pu faire des prises en main, des journalistes, des youtubeurs américains. Il y aura probablement beaucoup plus de vidéos à partir de demain, puisque c'est le jour officiel d'arrivée des Vision Pro. Mais déjà, regardez celle que je vous ai conseillée et on en reparle demain. Ça répondra déjà à pas mal de vos questions. Elles sont en anglais, mais vous savez que vous avez les sous-titres automatiques sur YouTube. Donc, vous activez les sous-titres. Je crois même que vous avez une... Vous pouvez avoir MKBHD et les autres, d'ailleurs, en doublage français. C'est un peu bizarre, la voix de doublage, mais ça marche. Ouais, Mister Perrier, j'ai vu qu'il en avait commandé un. Hein. Mais... Faut être motivé, hein, parce qu'ils ont tout fait, Apple, pour pas qu'on puisse l'utiliser en dehors des États-Unis. Moi, j'ai pas eu cette motivation. De toute façon, hors de question que je commande un truc de devoir l'importer des États-Unis en avion. Et puis, mettre la trésor dans un truc qui serait même pas garanti. Parce que t'as même pas la garantie hein, si tu l'achètes aux États-Unis, hein, ce produit-là. Donc, écoute, tant mieux pour Mister Perrier. Tant mieux pour lui. Moi, je vais attendre sagement qu'il soit dispo en France. Et après, on verra. Puis, on va voir aussi si c'est un sujet qui intéresse les gens. Pour l'instant, je vous dis, on le prendra pour le moment pour un test. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que le Vision Pro déclenche, en dehors d'une sphère technophile, le grand public en a un peu rien à foutre. On verra bien. On verra bien, on verra bien. On va bien évidemment faire un raid pour se quitter. On va faire un petit... Tiens, bon, on va faire un petit raid chez Nota Bene, vu qu'on en a parlé un petit peu ce matin. Jérôme, tu achèteras la version finale à 5 000 euros. Non, la chaîne achètera la version finale à 5 000 euros hors taxe. Après, est-ce que Jérôme l'utilisera au quotidien? Ça, c'est une autre question. Bah, Romain Lanéry, il est aux États-Unis, donc lui, il a eu raison de le prendre. Allez, un grand coucou à Nota Bene. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde! Le générique de fin, il est là.